micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant
le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de l'alu, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant sur voilà, qui parle d'actu politique et notamment sur les questions de racisme, de frontières et d'injustice sociale. Ces micro-ondes, on peut l'écouter tous les samedis de 13h à 14h sur Campus Grenoble, sur Radio Campus Grenoble. Donc la fréquence c'est 90.8 FM et micro-ondes, on peut aussi la réécouter en podcast quand on veut. C'est donc sur le site de Radio Campus et c'est aussi a priori sur le site du TAMI, www.letami.info. Cette émission du coup va donc on la consacre au fascisme et surtout à l'antifasciste puisque on a la chance d'avoir non pas autour de la table mais autour on va dire de notre conférence téléphonique des personnes qui font partie d'organisations antifascistes et je vous laisserai vous présenter après mais d'abord Yvon tu voulais un peu introduire le sujet, je te laisse nous en parler.
Oui, dites du moins compléter ce que tu viens de dire. C'est que en réaction à l'approfondissement de la crise sanitaire, sociale et politique, on peut que constater que le pouvoir réagit par une grave dérive autoritaire, des attaques aux libertés, des attaques aux droits du travail, et aussi par l'agitation des thèses chères à l'extrême droite, les migrants et l'islamophobie notamment. Et puis le tout en instrumentalisant la pandémie, les attentats. Donc, face à ces attaques, il y a des fronts de lutte qui s'organisent dans différents secteurs, bon, santé, éducation, logement, il y en a plein, quoi, sur lesquels. Et puis, notamment, les migrants, l'antifascisme. Aujourd'hui, on invite à micro-ondes des militantes et des militants de différents horizons pour leur demander ce qui les a particulièrement marqués dans la situation et quelles analyses ils en font. Voilà, en résumé.
Et du coup, c'est peut-être le moment de présenter nos invités. Déjà, merci d'être venu, merci de prendre le temps de répondre à nos questions et de parler un peu, d'être venu parler d'antifascisme sur les ondes de Radio Campus Grenoble. Est-ce que vous voulez vous présenter? Peut-être, je propose, on commence par Idriss, si tu veux nous parler un peu. On commence le tour de table par toi, de ton organisation, de ce que tu fais.
Eh bien, Idriss, militant antifasciste, assez proche du réseau de lutte contre le fascisme ISER, ex-RALFRON, avec dans l'idée de construire une section de ce réseau sur Grenoble, et par ailleurs militant syndicaliste, et militant de manière générale, militant révolutionnaire, dans toutes les luttes à mener depuis maintenant plusieurs années.
Ok, merci beaucoup. Olivier, est-ce que tu veux prendre la suite?
Ouais, Olivier, pareil, militant antifasciste à Grenoble depuis quelques années, également militant syndicaliste et sans organisation en particulier.
Ok, et Emma, donc tu es la troisième personne autour de la table, bienvenue.
Merci, moi c'est Emma, je suis militante à l'UNEF depuis 3 ans, donc étudiante aussi à Grenoble. Je ne suis pas organisée spécifiquement dans une organisation antifa, mais à l'UNEF c'est vrai que les questions d'antifascisme, d'antiracisme, ça fait partie de nos préoccupations, et c'est notamment pour ça qu'on a participé à l'organisation de la manif du 21 sur laquelle on reviendra et tout.
Et puis on peut peut-être ajouter que Myriam du réseau de lutte antifasciste Misère va nous rejoindre d'ici quelques minutes.
Oui, voilà. Et on la présentera du coup, en effet, quand elle nous rejoindra. Mais d'ailleurs, du coup, Emma, ça, bon, une question me vient un peu tout de suite. Est-ce que l'UNEF, par exemple, a toujours été antifasciste, ou bien est-ce que il y a des évolutions là-dessus sur le positionnement de cette organisation, du fait, je sais pas moi, d'une montée du fascisme dans les universités, dans la fac, etc.
Alors l'UNEF, non, c'est pas c'est un syndicat qui est assez vieux et qui s'est pas du tout, qui a eu énormément de variations politiques justement. Et c'est aussi un syndicat avec un droit de tendance, donc il y a plusieurs sensibilités politiques qui s'expriment dans l'UNEF, donc des militants et des militantes qui se revendiquent antifascistes et d'autres moins. Après là, c'est vrai que l'actualité, le fait qu'on soit notamment accusé d'islamo-gauchiste, que notre présidente elle soit attaquée parce qu'elle porte le voile, etc., ça a peut-être mis l'accent un petit peu sur le fait de prendre part à ces luttes-là pour toute l'UNEF et pas uniquement pour les militants et les militantes les plus à gauche de l'UNEF. Mais non, c'est pas quelque chose, ça fait pas partie forcément de l'essence de l'UNEF d'être okay. Antifasciste.
Et du coup, justement, est-ce que avant cette manifestation du 21 là dont on va parler juste après, l'UNEF faisait déjà des choses justement dans des inter-orgas antifascistes, ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau de ce côté-là, tu sais?
Alors, à ma connaissance, localement, il n'y avait pas trop de... Enfin, en tout cas, ces dernières années, il n'y a pas trop eu d'initiatives, j'ai l'impression, autour de l'antifascisme qui s'organisait dans des cadres inter-orga. Mais sinon, on a l'habitude un petit peu, dès qu'on est convié, en tout cas, d'aller de participer. Mais il ne me semble pas que... Oui, enfin, en tout cas, que les trois dernières années, moi, depuis que je suis à l'UNEF, on est... eu l'occasion de faire ça, mais plus parce que ça n'existait pas forcément et que ça se faisait autrement que parce qu'on ne voulait pas y être, quoi.
Pour les auditeurs, du coup, sachez juste que donc, cette question du racisme et du fascisme, on a choisi de la traiter sur deux émissions. Du coup, une première émission que vous entendez là, du coup, plus justement sur cette manifestation et ce procès qui a eu lieu le 21 novembre et qui va nous donner un peu l'occasion de parler de la fachosphère et des organisations identitaires, et une deuxième émission qui aura lieu du coup la semaine prochaine, donc samedi prochain, et qui portera plutôt sur les questions d'islamophobie et notamment d'islamophobie d'État avec la récupération de l'affaire Samuel Paty. Mais en tout cas, on est du coup sur cette émission en train de revenir justement sur ce fascisme et sur l'antifascisme. C'est l'occasion justement de revenir sur le procès qui a eu lieu le 21 octobre dernier. Si ça vous va, je propose en introduction qu'on s'écoute un petit montage qui vous présente simplement les prises de parole de différentes organisations à cette occasion, et puis on revient tout de suite après.
En avril 2018, dans la région de Briançon, une centaine de militants d'extrême droite se revendiquant de l'organisation Génération Identitaire, venus de plusieurs pays d'Europe, arrivaient au col de l'Échelle, lieu de passage des migrants tentant de franchir la frontière entre l'Italie et la France. La venue des identitaires avait pour objectif de bloquer les exilés qui tentaient de franchir le col. Les moyens mis en œuvre par l'organisation étaient démesurés. Hélicoptères, 4x4, doudounes bleues spécialement conçues pour l'occasion, vidéo live sur Internet, etc. Cette opération aux objectifs et aux moyens nauséabonds a pu se dérouler sans encombre, dans une zone pourtant particulièrement militarisée et surveillée, dans laquelle les migrants sont pourchassés et en danger de mort quotidiennement. Après un week-end qui s'apparentait à une grande opération de communication, les identitaires sont restés dans la région de Briançon, où durant plusieurs semaines, ils ont recherché, poursuivi et arrêté des exilés avant de les remettre à la police aux frontières. Les identitaires sont allés jusqu'à se mettre eux-mêmes en scène en train de jouer les flics. Les accointances entre la PAF et les militants d'extrême droite ne font aucun doute. La PAF acceptant totalement le fait que des substituts non assermentés fassent leur travail. Il a fallu une mobilisation des militants solidaires pour que l'État français, via le procureur de la République, finisse par poursuivre les identitaires. En première instance, trois militants identitaires ont été condamnés à 6 mois de prison ferme sans mandat de dépôt, 2000 euros d'amende et la privation de leurs droits civiques, civils et de famille pour 5 ans. L'association Génération Identitaire a écopé de 7500 euros d'amende. Ces militants n'ont été poursuivis que pour avoir exercé des activités dans des conditions de nature à créer dans l'esprit public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique. Les chefs d'accusation d'incitation à la haine raciale, de mise en danger de la vie d'autrui n'ont pas été retenus. Aujourd'hui avait lieu leur procès en appel à Grenoble. Nous ne nous leurrons pas sur le rôle de l'extrême droite comme supplétif de l'État raciste et policier. Nous n'accordons aucune confiance à la justice de l'État français dans cette affaire. Depuis des années, les identitaires ont amené sur le terrain politique certaines idées, racisme, islamophobie, un supposé lien entre immigration, islam et terrorisme, qui se retrouvent aujourd'hui dans la bouche d'une large part de la classe politique dirigeante, allant jusqu'à remettre en cause l'existence même d'un droit historique et international comme le droit d'asile.
Vous êtes toujours sur micro-ondes sur Radio Campus Grenoble 90.8 FM et on vient d'écouter un montage qui revenait sur la manifestation du 21 octobre dernier. Est-ce que les invités autour de la table, vous pouvez, est-ce que quelqu'un veut se lancer et nous raconter un peu d'abord de quel procès il s'agissait et quelle était un peu la situation, quitte à se compléter un peu les uns les autres ensuite. Idriss, est-ce que tu veux parler ?
Oui, donc rapidement, ce procès qui se tenait le 21 octobre, c'était le procès de militants politiques qui appartiennent au mouvement Génération Identitaire, donc qui est un mouvement de jeunesse d'extrême droite qui existe en France depuis quelques années et puis qui existe au niveau européen. Et donc qui défend des thèses racialistes et racistes, qui consistent à dire qu'il y a une identité blanche européenne à défendre. Et donc l'idée de cette génération identitaire, c'est de défendre cette identité européenne. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ça relève quand même d'une identité plutôt fantasmée. Mais dont la défense se caractérise par une élaboration d'un projet politique. Ce projet politique, c'est celui très concret de la fermeture des frontières, Et le gros concept développé par Génération Identitaire, c'est celui de la rémigration, c'est-à-dire le renvoi des migrants chez eux, y compris de migrants qui sont en fait français, descendants de l'immigration. Et donc voilà, le gros projet de Génération Identitaire, c'est quand même celui-là. C'est une organisation violente. On sait que les membres de Génération Identitaire sont des militants violents, qui n'hésitent pas à agresser, à attaquer, mais qui s'est doté d'une image très lisse de jeunes, bien sous tout rapport, qui sont plutôt issus d'ailleurs de milieux aisés, voire bourgeois, en fait, quand on creuse un petit peu sur l'identité de ces militants. Et qui s'est spécialisé dans les actions médiatiques très courtes, coup de poing. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait en 2018 à la frontière franco-italienne, en débarquant à une centaine de militants venus de toute l'Europe, avec des hélicoptères, des caméras, et ils ont en fait installé un faux poste frontière, voilà, une frontière symbolique dans la montagne, en se filmant, en médiatisant ça, et ouais. En fait, ils sont restés finalement plusieurs semaines après cette action médiatique dans les montagnes, où là, ils sont revenus à leurs fondamentaux, à savoir la violence de base, en bloquant les personnes qui essayaient de franchir cette frontière pour venir demander de l'asile en France. Et donc, ils ont été, pour trois d'entre eux, poursuivis et condamnés, en première instance à Gap. Ils avaient fait appel de ce procès. Et donc, c'est cet appel qui se tenait à Grenoble en octobre dernier.
Ok. Est-ce que moi, je ne suis, voilà, je suis l'affaire un peu de loin. Est-ce qu'il y a déjà eu un rendu de l'appel ou bien on n'est pas… Non, j'imagine que le résultat se fait encore un peu attendre. Vas-y, Olivier.
Alors, non, le rendu sera en décembre. Je ne sais plus si c'est… Je sais plus le jour exact, mais le rendu de l'appel se fera en décembre. En tout cas, au niveau de la réquisition de la procureure, la réquisition a quand même été revue à la baisse depuis le procès en première instance, parce que il y avait 6 mois ferme requis au premier procès, et là c'est 6 mois de sursis à la place. Au niveau des amendes, je ne sais plus si ça stagne ou si ça baisse aussi. Mais en tout cas, la condamnation, en tout cas la réquisition. Du procureur et en dessous de celle de la première instance. Donc ça s'annonce, ça s'avance plutôt sur une condamnation qui serait moindre. Voilà. Et pour juste pour compléter ce qu'a dit Idriss sur les actions de Génération Identitaire, il y avait aussi, ça avait fait pas mal de bruit, ils avaient fait une campagne, leur campagne Defend Europe, ils l'avaient fait aussi en bateau dans la Méditerranée où ils avaient voulu, acquérir un bateau pour bloquer les barques de migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée. Donc on est encore sur une action assez glauque et très violente envers des gens qui sont déjà en grande difficulté. Voilà.
Est-ce que vous pouvez rappeler quels sont les chefs d'inculpation ?
Oui, effectivement, c'est important de revenir sur les chefs d'inculpation et sur la procédure. En fait, au départ, le procureur de la République ne se saisissait pas de ce qui était en train de se passer à Briançon. Donc, il y avait ces militants avec des hélicoptères qui bloquaient la frontière, qui repoussaient des migrants, ce qui va à l'encontre des lois françaises, mais également des lois internationales, puisque quiconque souhaite demander l'asile a le droit d'entrer sur le territoire français pour déposer une demande d'asile. Donc, tout un tas de lois étaient non respectées par cette action, mais le procureur ne saisissait pas. Il a fallu que des militants solidaires des migrants puissent mettre la pression sur le procureur pour qu'il finisse par se saisir. Et finalement, l'unique chef d'inculpation qui a été retenu est celui un petit peu compliqué en termes juridiques. J'ai pas l'intitulé exact, mais qui est celui en fait d'avoir usurpé la fonction des forces de l'ordre. Voilà, ce qui en dit long en fait, parce que du coup, d'un côté, la mise en danger de la vie d'autrui et l'incitation à la haine raciale n'ont pas été retenues, et d'un autre côté, ça revient à dire que c'est ce que fait la police française quotidiennement dans les montagnes vers Briançon, alors même que ça ne respecte pas les conventions internationales, puisque la police française non plus n'a pas le droit de renvoyer les migrants à la frontière sans leur laisser la possibilité de déposer une demande d'asile. Donc voilà, c'est ce qui motivait l'appel à mobilisation lors du procès en appel. C'était pas de réclamer une peine plus lourde, c'était de montrer une vraie solidarité et une vraie mobilisation populaire massive pour dire qu'on condamnait à la fois les agissements de l'État à travers sa police et la gestion des frontières au niveau français et européen, et les actions de militants d'extrême droite qui, en fait, ne font que jouer un rôle supplétif de la police, mais en fait, sans faire autre chose que ce que la police française, en tout cas la police aux frontières, fait déjà au quotidien.
Ouais, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a entendu, j'ai l'impression, dans le texte que vous avez lu au début de la manifestation, c'est que finalement, les agissements fascistes un peu d'un petit groupuscule à la frontière, c'est quelque chose, mais que les agissements soient beaucoup plus quotidiens et pratiqués par une police d'État, c'est encore autre chose, et qu'en gros le vrai risque, le vrai danger, c'est le passage à un fascisme d'État, non? Est-ce que je me trompe un peu là-dessus? Vas-y, Olivier.
Oui, dans les mots d'ordre de la mobilisation, il y avait le fait d'être contre le racisme d'État, parce que voilà, l'État n'a pas attendu cette action ni d'autre de l'extrême droite pour mettre en place un racisme aux frontières et sur le territoire envers les populations immigrées et descendants d'immigrés. Et donc le but, c'était aussi de dénoncer ça dans une atmosphère en ce moment où quand même la montée de l'islamophobie, c'est plus fort dernièrement, mais elle monte depuis un bon moment maintenant, où la police tue régulièrement dans les quartiers populaires. Voilà, le racisme d'État, là, il a le vent en poupe, on va dire, et du coup, c'était aussi une occasion de dénoncer ça, et on s'est saisi de ce procès aussi, parce que il était à la croisée de plusieurs questions très actuelles, qui étaient autant la montée de l'extrême droite, que ce racisme d'État, les violences policières, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est aussi de violences policières. Et en fait, dans le débat public en ce moment, il y a tendance à avoir énormément d'amalgames sur immigration, islam et terrorisme, etc. Donc en fait, cette question, même si là, on n'est pas sur quelque chose de très particulier sur l'islamophobie, pour moi, elle rejoint aussi cette question du racisme d'État et d'islamophobie d'État qui est très forte en ce moment, quoi.
Et c'est ce qui avait valu, d'ailleurs, au journaliste qui a relaté la manifestation. Et, alors, un petit peu ce qu'il avait l'air de dire, « Oh, ben, c'est une manif contre l'extrême droite, mais ils ont tout mélangé, etc. » Alors, visiblement, je pense que le rapprochement avec les pratiques de la police, l'islamophobie, ça allait repasser au-dessus de la tête.
Et justement, vas-y Idriss, mais en tout cas, moi, ma question, c'est est-ce que vous, en tant que militant, depuis plusieurs années sur ces questions antifascistes, vous avez l'impression, justement, qu'on assiste à un racisme d'État qui est de plus en plus important et de plus en plus décomplexé? Bon, Idriss, du coup, je te laisse prendre la parole et éventuellement répondre à ma question si tu as la motivation.
Effectivement, avec Olivier, on se rejoint hein, sur les mots d'ordre de cette manifestation qui portait aussi sur les violences policières complètement et sur le racisme d'État. Je compléterai en disant qu'en plus, là, on a un ministre, Gérald Darmanin, qui parle d'ensauvagement, qui parle... quand il reprend ces mots-là, il utilise un discours qui a été construit notamment par Génération Identitaire. Et ça fait déjà quelques années qu'on voit que les mots utilisés par le Front National sont repris par tous les partis politiques, quels qu'ils soient. Là, on voit un glissement encore plus loin en allant jusqu'à reprendre des concepts portés par Génération Identitaire. On a vu ça avec aussi Emmanuel Macron qui avait téléphoné à Éric Zemmour pour le consoler après une pauvre agression verbale dans la rue où il s'était fait insulter. Et donc le président de la République qui l'appelle pour lui apporter son soutien. Après, est-ce que le racisme d'État est plus fort maintenant qu'avant? On pourrait toujours dire, on constate que ces derniers temps, ça s'est durci. Un président de la République qui parlait du bruit et de l'odeur dans les quartiers populaires, ça commence à dater maintenant, ça a presque 20 ans. Et donc, en fait, c'est ce qu'on disait aussi dans l'appel à cette manifestation, à cette mobilisation, c'est qu'on vit aussi dans un pays, on vit au sein d'un État qui s'est construit sur la colonisation et sur l'esclavage et qui encore nourrit de ces racines-là et qu'il ne faut pas l'oublier. Quand des gouvernants reprennent les termes de l'extrême droite identitaire, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un État qui s'est construit là-dessus et qui a jamais, que ça a jamais complètement disparu des discours politiques. Après, là, ce qui se durcit, c'est un retour en arrière, notamment sur la question des frontières. On les avait ouvertes avec Schengen, avec l'Europe, et puis d'un coup, elles se referment. Mais comme elles étaient fermées il y a déjà 30 ou 40 ans avec les boat people qui essayaient déjà d'atteindre la France, en tout cas l'Europe de l'Ouest. Et donc voilà, il y a des choses qui sont pas en fait si récentes que ça, mais qui aujourd'hui méritent d'être remises sur le devant de la scène politique et qu'on se doit, nous, en tant que militants et militantes antifascistes, de porter et de visibiliser, de combattre, de contester, parce que c'est quand même ça qui gouverne nos vies.
Ok. En tout cas, je propose qu'on se fasse une petite pause musicale. On parlait tout à l'heure justement de la question des violences policières avec Olivier. On s'écoute un petit morceau du coup de Attic qu'il a fait en freestyle sur l'émission Taratata, mais c'est pas important que ce soit sur Taratata. L'important c'est surtout que ça parle des violences policières. Et voilà, on s'écoute ça et puis on se retrouve juste après pour continuer de parler du coup du fascisme et surtout de l'antifascisme à Grenoble et ailleurs. À tout de suite.
Bienvenue en France, pays des droits de l'homme. À ce qui paraît, c'est pas chez nous que le mot liberté vaut de l'or. À ce qui paraît, on a les mêmes chances au départ. Pourtant, j'ai comme un goût amer entre les dents, parce que t'as beau faire des études, tu resteras quand même un noir. Et qu'un conseil de policier, ça restera quand même un ordre. Parce que t'as beau porter un voile, par conviction personnelle, on te verra toujours comme celle qui porte une mine antipersonnelle. Parce qu'un arabe qui fait du bruit, ça dérange plus qu'un blanc. Parce que l'Aïd, c'est pour les fous, mais que la corrida, c'est cool. Parce qu'un noir, ça s'appelle un noir. Ça s'appelle pas un black. Parce qu'un dealer qui meurt étouffé, vous appelez pas ça un drame. RIP, Adama. RIP, Zied. RIP, Bouna. Et RIP, tous les autres. Encore une vidéo qui sort, encore une fois, j'ai plus les mots. Parce que je m'appelle Clément et que ma grand-mère est guyanaise. Quand j'étais petit, on s'aimait tous, mais aujourd'hui, c'est plus la même. Si aujourd'hui, je vous dis tout ça, en direct de Taratata, c'est parce que moi aussi, un flic a déjà voulu m'enlever la vie.
Et c'est donc toujours Micro-ondes qui parle et qui prend les ondes de Radio Campus, donc le 90.8 FM. On est donc sur cette émission en train de parler de fascisme, de racisme d'État, de violence policière et surtout des organisations qui s'opposent à ça, qui s'organisent contre ça. Merci à vous du coup, Olivier, Emma, Idriss, d'être autour de la table avec nous pour échanger sur tout ça. On vient du coup d'entendre un morceau clair et net, un petit freestyle clair et net sur aujourd'hui le racisme d'État et ça reprend un peu ce que tu disais, Idriss, hein, juste avant qu'on écoute ce morceau sur les évolutions. En tout cas, c'est vrai que c'est pas évident de savoir si ça augmente, si ça augmente pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est de plus en plus assumé par les politiques actuelles, quoi.
Ces identitaires, enfin le mode d'action de génération identitaire, c'est pas de créer un mouvement fasciste massif qui défilerait par milliers dans les rues, etc. Ils essayent un peu de temps en temps, mais c'est pas trop leur credo. Leur credo, c'est d'influencer les idées de vraiment jouer sur le côté culturel et échiquier politique et comment équilibrer tout ça de leur côté, du côté du fascisme. Et en fait, pour ça, ils font des actions coup de poing, ou en tout cas des actions très médiatiques. Du coup, face à ces modes d'action très médiatiques, qui révèlent qu'ils ont d'énormes moyens, parce qu'ils ont quand même pu avoir un hélicoptère dans les Alpes, des doudounes, du matériel, des 4x4, etc., sérigraphié et compagnie. Par contre, ça révèle aussi que leurs forces, elles sont pas non plus massives. Et on a voulu opposer à ça, justement, et surtout à Grenoble, où il y a assez peu de présence fasciste dans les rues, mais où il y a des mouvements sociaux d'ampleur et des acteurs qui sont assez organisés de ce côté-là. On a voulu opposer au coup de poing médiatique des identitaires une mobilisation massive et populaire. Et donc, ça nécessitait de mettre plein d'orgas autour de la table. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qui a mené à cette manifestation, donc, qui, dans cet objectif-là, a été une réussite, puisqu'il y avait environ 1000 personnes dans les rues de Grenoble un soir de semaine. Donc c'est quand même une belle mobilisation sous les mots d'ordre contre l'extrême droite et le racisme d'État pour l'ouverture des frontières.
Emma, j'ai l'impression que tu voulais compléter ou bien dire quelque chose.
Oui, moi je voulais dire qu'effectivement on était aussi assez satisfait de la manifestation, notamment parce que déjà il y a pas mal d'organisations de jeunesse qui se sont investies, comme disait Étienne. Donc voilà, il y avait nous avec l'UNEF, mais il y avait aussi l'UNL, l'UEG, l'UEC qui se sont investis dans l'organisation, le service d'ordre, etc. Nous on avait fait un petit cortège jeune aussi dans la manif pour porter des revendications qui soient autour du procès, mais également spécifiques au contexte dans les universités et tout. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une manifestation qui a ramené énormément de jeunes, et je trouve que c'est assez positif parce que ça montre que, peut-être que le vent, il est aussi un petit peu en train de tourner, et qu'en fait, la jeunesse, elle est plutôt, on va dire, antifasciste, et que du coup, ça, moi, je trouve que une manif comme ça donne de l'espoir pour la suite de la lutte, en tout cas, sur Grenoble, quoi.
Trop bien, c'est chouette comme message. Idriss, j'espère que tu vas pas rompre avec le positivisme de Emma.
Oui, effectivement, ça a été une réussite. Et puis ça permet, je trouve, peut-être d'appuyer un point qui est le rôle du militantisme antifasciste, qui est aussi d'aller chercher les organisations, comme disait Olivier, qu'on identifie, donc révolutionnaires et ou progressistes, les organisations de jeunesse, les organisations politiques, les organisations syndicales, d'aller les chercher et de les amener sur ce terrain-là de l'antifascisme et de dire il y a aujourd'hui des discours qui divisent notre camp social, qui divisent en fait notre classe, et l'idée pour nous c'est de défendre un antifascisme de classe et de dire que c'est par la mobilisation populaire et massive qu'on arrivera à faire reculer des groupuscules comme Génération Identitaire qui, eux, avec un faible nombre de personnes, arrivent à imposer leur agenda politique et leurs idées, ce qui, par ailleurs, arrange bien l'État en général et bien arrangé par le fascisme qui permet, en fait, de recentrer les questions. Quand tout part en vrille et que la crise elle est dans tous les sens, écologique, sociale, économique et en ce moment sanitaire, l'épouvantail du bouc émissaire qu'on met devant, et en ce moment les boucs émissaires en France sont les musulmans, les musulmanes et aussi les migrants et les migrantes qui essayent d'entrer en France parce qu'il y a tout ce mélange qui est fait entre immigration, islam, terrorisme. De poser ça là, ça vient casser des dynamiques que nous on peut avoir dans le mouvement social, qui sont au contraire les dynamiques de solidarité, de juste répartition des richesses, de réfléchir à un autre système social et une autre organisation politique. Et il faut vraiment qu'on arrive à se retrouver sur cette question qui nous concerne toutes et tous, qui est celle de la montée de l'extrême droite, qui est celle de la montée des discours racistes et fascisants, pour justement occuper le terrain sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire mobiliser massivement et dans des dynamiques positives. Dire que nous aussi, on défend une vision du monde différente et qu'on n'est pas uniquement contre un groupuscule d'extrême droite, mais qu'on est capable de développer un discours également contre les politiques de l'État, contre ce qui définit cet État dans ses discours racistes, coloniaux, et tout ce qui reste des fondations de l'État français colonial. C'est d'arriver à démonter tous ces discours sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire la solidarité et un discours de classe qui soit clair et à opposer à ces groupuscules d'extrême droite.
Chouette. Et en effet, ça nous fait une bonne transition vers, vers la question des organisations et de, voilà, de comment on riposte, entre guillemets. Et j'y viens juste après. Je voulais juste, éventuellement te reposer la question à toi, Idriss, parce que c'est une question, moi, que je me pose et je me dis peut-être les auditeurs se la posent aussi. Du coup, vous parlez un peu tour à tour, soit de racisme, soit de fascisme. Est-ce que vous faites un lien entre ces deux notions ou voilà, comment elles s'articulent en gros du côté de l'État et du coup, comment vous luttez contre les deux en même temps, par exemple?
Alors, le fascisme, pour moi, hein, c'est un. Après, effectivement, il y a tout un débat autour des termes qu'on utilise. Qu'est-ce que c'est qu'un facho? Qu'est-ce que c'est qu'un raciste? Qu'est-ce que c'est qu'un État raciste? Un État fasciste? Pour moi, le fascisme, c'est plus un mode de gouvernance très centré, c'est-à-dire qu'on casse les dynamiques. Souvent, hein, le fascisme, il est apparu dans des États plutôt libéraux, à l'époque l'Italie, l'Allemagne, hein, plutôt l'Europe de l'Ouest, période industrielle, début du XXe. Et c'est un mode de gouvernance qui casse la dynamique libérale et qui va recentrer le pouvoir de manière très ferme et très autoritaire, sur la base de discours qui font et de pratiques qui font la marque de fabrique du fascisme, qui sont la violence, l'anticommunisme et le bouc émissaire, qui soit l'immigré, qui soit le juif, qui soit le franc-maçon. Et donc effectivement, aujourd'hui, on voit que la montée du racisme, elle va de pair avec un durcissement sécuritaire et presque autoritaire du pouvoir. Là, pour l'exemple du jour, par exemple, c'est Darmanin qui annonce que dans les semaines à venir, il sera plus possible de diffuser des images de violences policières. C'est un gouvernement qui, de manière générale, nie complètement qu'il y a des violences policières. C'est stigmatiser toute une population sur la base de son appartenance religieuse ou appartenance supposée, parce qu'on dit les musulmans, les musulmanes, mais en fait, on ne sait pas. Clairement quelles sont les croyances des gens qui sont ciblés sous ce terme-là, mais c'est d'ériger un terme comme ça qui englobe une minorité et qui vient justifier des durcissements sécuritaires et qui viennent durcir les conditions de vie de ces populations qui sont pour le plus souvent déjà précarisées, déjà renvoyées un peu aux marges de la société, aussi bien au niveau social qu'économique, et même urbain. En fait, ce qui est ciblé là, c'est les quartiers populaires. Quand on cible les musulmans et les musulmanes, on cible les quartiers populaires. Et donc, pour moi, le lien entre le racisme et le fascisme, il est là. C'est que le fascisme, c'est un mode de gouvernance, et que le racisme, c'est le discours, entre autres, qui vient justifier la mise en place de ce mode de gouvernance.
Ok. C'est cool, merci pour cette précision et j'imagine que ce sera plus clair aussi pour les personnes qui nous écoutent. Je voulais vous proposer un peu de rebondir sur justement les réponses qu'on apporte, que ce soit ici à Grenoble ou que ce soit ailleurs. Avant l'émission un peu, Emma, tu nous parlais d'organisation étudiante antifasciste et ça me permet un peu de rebondir justement sur ce que tu disais de cette jeunesse antifasciste. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus?
Je trouve que effectivement en fait c'est les questions là, on l'a vu notamment aussi au début de l'été quand il y a eu un peu une explosion du mouvement antiraciste, etc. C'est des mouvements où on voit énormément de jeunes, donc moi je trouve que ça c'est positif et que ça veut dire que c'est quelque chose qui parle assez largement dans la jeunesse, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas également des idéologies d'extrême droite et fascistes qui se répandent aussi dans les universités, dans les lycées, etc. Et notamment, je pense qu'on a quand même toujours affaire à une menace assez importante, notamment avec la constitution de groupes qui se revendiquent d'extrême droite, comme la cocarde étudiante ou de plus en plus d'apparitions de l'Action française également sur Grenoble. Mais par exemple, ce qu'on voit avec ce qui s'est passé par exemple au Mans, c'est qu'on a des militants de l'Action française qui, depuis la rentrée, menacent des militantes de gauche et d'extrême gauche dans leur activité quotidienne en les empêchant de faire des trucs vraiment classiques comme des diffs de tracts ou des collages. À Lyon, la cocarde étudiante donc, qui fait campagne assez largement depuis la rentrée aussi, notamment pour les élections, etc. Donc ça veut bien dire que que même si voilà, l'antiracisme, l'antifascisme, etc., c'est des choses qui parlent aux jeunes, il y a une nécessité à rester un petit peu sur, sur le qui-vive et, que, et qu'en fait, voilà, ces dérives fascisantes, elles parlent quand même et que du coup, c'est important de se faire entendre sur ces questions, notamment avec des apparitions comme celle de la manif du 21.
Est-ce que la coordination est, est facile ou bien est-ce qu'elle prend beaucoup d'énergie entre les différents groupes mettons, on va prendre du coup l'exemple de Grenoble. Vas-y Idriss, puis après Olivier si vous voulez répondre.
Bah, y a effectivement, l'antifascisme va regrouper une pluralité de discours politiques et de pratiques concrètes. Et effectivement, y a toute une partie qui est celle qui est pour le coup la plus médiatisée, qui est celle des petits groupes qui tiennent la rue et qui peuvent aller à la confrontation et qui défendent plutôt ce qu'on appelle l'autodéfense populaire. Peut-être que Olivier reviendra sur ce point-là. L'antifascisme, c'est aussi, d'un point de vue syndical, par exemple, revenir à nos valeurs fondamentales qui font ce qu'est le syndicalisme depuis ses origines, à savoir la défense d'une idée, d'une valeur centrale qui est celle de la solidarité. Et à l'inverse, le fascisme et l'extrême droite, c'est le repli, c'est fermer. Et c'est souvent porté par des mouvements bourgeois, petits bourgeois, qui vont en fait défendre leurs propres intérêts. Et là où on peut se retrouver toutes et tous ensemble, qu'on soit des petits groupes antifa ou qu'on soit des militants syndicalistes ou des militants et des militantes politiques d'organisations, de partis ou d'organisations politiques, on peut se retrouver sur cette valeur fondamentale de solidarité. C'est-à-dire que, pour, à mon sens, on lutte aussi contre l'extrême droite en défendant un autre projet de société, en défendant une autre répartition du travail et des richesses, en défendant les services publics, en défendant tout ça, on défend le fait que, quelles que soient nos origines, nos appartenances religieuses, nos orientations sexuelles, notre genre, en fait, on se retrouve sur l'idée de défendre l'égalité et la solidarité entre toutes et tous parce que ce qu'on produit au quotidien en tant que travailleurs et travailleuses, on devrait être en capacité de se le répartir équitablement voilà, entre nous. Et en défendant ça avec les organisations syndicales et avec les organisations politiques qui s'inscrivent dans ces discours-là de justice sociale et d'égalité, on fait aussi reculer quelque part l'extrême droite. Mais après, l'extrême droite, elle a aussi ses petits groupes et ses organisations qui s'attachent à tenir la rue et à exprimer toute sa violence, comme c'est le cas par exemple à Lyon ou à Chambéry, avec des agressions répétées. Et ça demande aussi d'autres pratiques qui peuvent pas, qui doivent se développer autrement. Et c'est peut-être là-dessus que Olivier peut parler. Je sais pas.
Vas-y, on va voir ça tout de suite, Olivier.
Non, je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions que m'a laissé Idriss, mais, mais du coup, ouais, sur l'antifascisme, bah, l'antifascisme, il est né en même temps ou un petit peu après que le fascisme, que le fascisme italien et le nazisme. Donc, c'était des organisations. La première action antifasciste, c'était un organe dirigé quand même par le Parti communiste allemand. Et voilà, et du coup, ça a d'abord été, ça a tout de suite été pris en charge par les organisations révolutionnaires de gauche, on va dire, de manière générale, puisque les partis socialistes aussi se dotaient d'organisations antifascistes à l'époque. Et voilà, donc en fait, l'antifascisme, assez vite, il y a beaucoup de gens qui ont pu s'en revendiquer, y compris des personnes qui peuvent être bien plus à droite que des révolutionnaires d'un spectre politique. On pense dernièrement, dans les 10 dernières années, il y a par exemple Manuel Valls qui à des moments s'est revendiqué antifasciste, quoi, et qui disait qu'il n'aimait pas les fascistes. Bon, du coup, ça peut être très large. Du coup, quel antifascisme, c'est une grande question aussi. Après, pour ce qui est des groupes antifascistes ou d'actions antifascistes, la question est plus particulière. Enfin, des groupes qui sont vraiment centrés sur cette question. Dernièrement, il y en a pas mal qui se sont développés. Il y a un réseau qui s'appelle la Jeune Garde qui a été monté. Il y a aussi pas mal d'actions antifascistes qui sont nées dernièrement en France et ailleurs. voilà, qui réseautent, qui se coordonnent. Il y a des lignes différentes, il y a des réseaux différents, des coordinations différentes. Tout le monde n'est pas d'accord sur quel antifascisme mener. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui est de Grenoble, ça fait quelques années qu'il n'y a pas de le réseau de lutte contre le fascisme de l'Isère qui est présent, mais qui n'a pas de section en particulier à Grenoble, mais qui fait un travail de veille qui est très important. Et après, il y a une habitude un petit peu à fonctionner en réseau. Entre organisations de classe, avec le milieu autonome aussi qui fait beaucoup pour cette lutte à Grenoble comme ailleurs et qui a des forces à investir là-dedans. Et donc nous, le sens qu'on a trouvé là pour cette mobilisation du 21 octobre et qu'on retrouvera sûrement pour d'autres mobilisations à venir, c'est celui de s'allier entre organisations et membres de notre classe pour montrer un front uni voilà, contre ce fascisme, qui est quand même bien à différencier des sortes de fronts républicains que peuvent proposer les Macron et compagnie, les partis socialistes et autres partis électoraux, qui est plus un front de classe et qui se démarque de l'antifascisme bourgeois, d'un Manuel Valls, par exemple, que je citais tout à l'heure. Je le citais parce que c'est tristement ironique vu les politiques racistes qu'il a pu mener et soutenir.
Ok. Merci pour ce témoignage. Ah, je vois que Myriam nous rejoint. Est-ce que tu nous entends, Myriam?
Je vous entends, je vous entends, je suis un peu fatiguée de courir.
Ouais, on imagine, en effet, on a qu'à te laisser, si vous en êtes d'accord les autres, le mot de la fin. On arrive bientôt, nous, à la fin de l'enregistrement, mais on parlait notamment des violences policières. J'ai cru comprendre que tu avais été retenu par des contrôles policiers à la gare. Est-ce que tu veux, rien de grave?
Rien de grave, mais c'est impressionnant quand même, parce qu'il y a les contrôles policiers, des attestations, mais il y a aussi des contrôles dans les trains, des billets, des abonnements. Donc il y a la police ferroviaire, il y avait la police qui contrôlait les attestations. C'est la première fois que depuis la semaine dernière du confinement. Donc je pense que là, ils sont passés à la vitesse supérieure. De contrôle. Moi j'avais mon attestation employeur, mon abonnement travail, mais oui, c'est impressionnant, c'est une ambiance vraiment, vraiment, vraiment angoissante.
Et ça rejoint un peu ce que disait Yvon en introduction, c'est qu'à un moment on est sur un état qui profite aussi de ce contexte sanitaire pour réduire encore un peu plus les libertés individuelles et rajouter un peu de fascisme au fascisme ambiant déjà, on va dire.
Et ce que je voulais rajouter justement, c'est que comme on arrive à la fin de l'émission bientôt, et qu'on a encore, il me semble, beaucoup de choses à dire, il serait intéressant, on peut envisager pour la prochaine émission, de compléter plus précisément sur un volet que apparemment la Macronie a bien tendance à vouloir exploiter, à savoir le bouc émissaire, l'islamophobie et cet engagement dans cette politique, dans cette dérive. Je pense qu'il serait intéressant de la développer avec éventuellement une partie de l'équipe qui est là, ou toutes, et peut-être d'autres intervenants.
Il y a quelque chose qui est en train de se passer là, vraiment, et là on le ressent même plus que à la première, au premier confinement. Il y a une colère, il y a des angoisses de l'avenir, des angoisses effectivement de voir la police. Je ne dis pas que tout le monde angoisse de voir la police, mais en plus, quand on rajoute là-dessus les sentinelles à Grenoble, les attentats, donc j'ai l'impression qu'on est entouré que d'uniformes, Il n'y a plus rien, en fait, qui peut nous tenir aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on résiste à ça. Et bon, je ne sais pas de quoi vous avez parlé. Moi, je veux juste dire qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras. Des fois, on a envie de les baisser. On est attaqué de toutes parts, les militants, les intellectuels, vous avez dû le voir. Et donc, il faut vraiment s'unir et à tout niveau associatif, intellectuel, pour avoir une vraie parole et qu'on n'ait pas honte de notre parole. Voilà. Et de nos réflexions. Parce que dans des moments comme ça, il n'y a que la réflexion, l'intelligence qui peut nous empêcher de sombrer, en fait. Et aujourd'hui, on est dans le surfait, on est dans la propagande, dans la com. Et ça détruit, en fait. Et là, vraiment, je ressens beaucoup ça, quoi.
Ouais, bah c'est ça aussi qui était chouette, justement, sur cette émission. C'est que, certes, on voit un peu et on balaye les attaques de toutes parts. Et en effet, on sent que c'est une période difficile. Mais on voyait aussi, et moi, je retiendrai ça éventuellement comme note un peu de fin d'émission, c'est que sur cette manif du 21 octobre, à un moment, vous avez montré qu'une union entre les organisations est possible et entre des organisations qui, justement, n'ont pas forcément la même vision exactement de l'antifascisme, mais qui se retrouvent derrière des mots d'ordre, justement, pour arrêter le racisme d'État, les violences policières et la complaisance envers ceux qui jouent aux policiers, on va dire un peu.
Oui, juste un petit mot, il y a les organisations, mais il y a aussi les associations. Moi, je suis beaucoup en lien avec les associations dans mon travail, et ils ont le même constat, en fait, le même constat. Donc, ne pas s'attacher qu'aux organisations, il faut s'entourer vraiment des gens qui réfléchissent, des intellectuels, qui sont en train de s'en prendre plein la gueule en ce moment. Vous avez vu Éric Fassin, vous avez vu Edoui Plenel, on est traité d'islamo-gauchiste, parce qu'on réfléchit, et c'est terrible ça, c'est terrible. On le sentait venir, hein. Ça fait un moment que ça dure cette affaire, mais là ça se révèle. Voilà, donc vraiment là, il faut vraiment qu'on fasse un travail avec, et vous parlez des organisations, mais il faut les assos, les citoyens qui ne sont pas forcément dans des organisations. Rapidement, donc vous savez qu'on fait nos rencontres des luttes et des résistances chaque année, hein, au mois de janvier à Voiron. Évidemment, là, on s'est posé la question, comment on va faire. Au mois de janvier, ça va pas être possible de faire ce rassemblement avec les assos, etc. Donc, on est en train d'imaginer d'organiser ces rencontres. Et comme tout le monde, hein, par téléconférence. Et on imagine de faire des rencontres en invitant des intellectuels, des gens de notre réseau, qu'on a déjà invités d'ailleurs les années précédentes, pour réfléchir à toutes ces questions. Et l'idée, c'est de faire quelque chose par Internet, en invitant nos réseaux et en invitant des personnes pour intervenir. Voilà, on ne sait pas trop le format, mais on réfléchit à ça parce qu'on ne peut pas être absent du terrain. On a vraiment besoin de réfléchir, d'analyser. Il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que ça pour l'instant. Voilà, c'est tout. Bonjour, on vous informera de comment on va organiser tout ça. Mais on lâche pas l'affaire.
C'est chouette de terminer par un petit point d'agenda. Voilà, ça colle tout à fait avec une nouvelle perspective pour la suite. Est-ce que les personnes autour de la table, Olivier, Idriss, Emma, vous vouliez rajouter un dernier petit mot de la fin ?
Un point important qu'on n'a pas abordé qui pourrait faire l'objet d'une émission à lui tout seul, c'est la question de la solidarité internationale aussi. Et qui est essentiel dans la période et qui est essentiel dans l'antifascisme, c'est aussi comment on repense l'internationalisme de manière générale, puisque on voit aujourd'hui de grands pays, de grandes partie de la population mondiale sont en fait sous des gouvernements de droite ou d'extrême droite qui conjuguent parfaitement le discours religieux et nationaliste et tendent vers des pouvoirs fascisants. Je pense à l'Inde, à la Turquie, au Brésil, aux États-Unis. Alors on verra ce que donne le résultat de ces nouvelles élections américaines. Mais il y a voilà, un discours qui est un peu absent des milieux révolutionnaires et progressistes, qui est le discours internationaliste et qui, à mon sens, à repenser, à reconstruire. Pour avoir une véritable efficacité et pour revenir sur cette idée de solidarité dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi la solidarité internationale qui est essentielle avec voilà, ce qui peut se passer, notamment en ce moment, enfin depuis déjà quelques années, au Kurdistan et au Rojava, mais aussi les résistances au Brésil, en Turquie, en Inde, contre de grands États comme ça, gouvernés par des pouvoirs fascisants et qui prennent effectivement des couleurs différentes, mais qui ont la même racine, qui est en fait l'extrême droite et l'autoritarisme, le racisme et les discours autoritaires. Et donc voilà, c'est une question qu'on n'a pas abordée, mais que je pense en tant que militant et militante antifasciste, on a tous en tête et se pose. Pour nous, la nécessité de penser ces questions-là.
Juste pour info, voilà, c'est l'Interorga qui a organisé le 21 octobre. Il y a éventuellement la perspective de se remobiliser ensemble. On va voir ce que ça donne, mais la volonté serait peut-être aussi de se mobiliser sur la question de l'islamophobie, sur laquelle quand même la gauche et le camp progressiste et révolutionnaire assument un retard conséquent ces dernières années, et il est temps de rattraper ce retard, parce que là ça devient urgent, et il est temps de prendre la défense et d'être aux côtés de nos camarades musulmans et musulmanes et de leur lutte en ce moment qui est pas facile. Voilà.
Eh ben super, merci à vous d'avoir été présent à cette émission, merci de nous avoir partagé votre point de vue sur la situation actuelle, d'être revenu sur la manifestation et comme vous le savez du coup, donc on refait une prochaine émission la semaine prochaine sur les questions justement d'islamophobie avec une partie des invités qui sont présents ici qu'on réinvite la semaine prochaine.
Et qui voudront bien nous rejoindre.
Voilà. Du coup, ça va tomber sur le samedi 14 novembre 13h sur le 90.8 FM ou en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Voilà. Merci à vous.
Merci. Au revoir à tous. Merci.
Au revoir.
Merci. Bonne soirée.
À bientôt.
Bonne soirée.
Et on termine cette émission micro-ondes simplement par deux choses. Tout d'abord, un petit point à l'agenda. La manifestation qui a lieu tout à l'heure à 15h30 devant l'hôpital de la Tronche pour demander l'arrêt des mesures liberticides telles que le couvre-feu et surtout des moyens humains et matériels contre la crise sanitaire et sociale actuelle, et notamment des moyens pour l'hôpital public. Une manifestation à l'appel du NPA, du Parti communiste ouvrier de France, de la CNT, Confédération nationale du travail, de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, de Solidaire, le syndicat Solidaire, et du DAL, droit au logement. Et puis la deuxième chose aussi pour terminer cette émission, c'est une petite brève qui vient donc introduire un montage. Mardi 3 novembre dernier, Maher Alakras entamait son 100e jour de grève de la faim pour obtenir sa liberté. Il est en détention administrative depuis son arrestation le 27 juillet 2020 par l'État d'Israël. La détention administrative concerne plus de 350 Palestiniens, Palestiniennes actuellement. Ce régime permet une détention sans inculpation, sans procès et pour une durée renouvelable indéfiniment. De nombreux collectifs appellent à une mobilisation internationale pour porter le combat de Maher Alakras, aujourd'hui dans un état de santé très critique. Nous vous proposons d'écouter l'interview d'Anat Matar, militante au sein du comité israélien pour les prisonniers palestiniens, sur ce sujet.
Hello, my name is Anat Matar. I'm a philosophy teacher.
Je m'appelle Anat Matar, je suis professeure de philosophie à l'université de Tel Aviv et je suis aussi militante au sein du comité israélien pour les prisonniers palestiniens. Et je vais vous parler du cas de Maher Alakras, qui est un détenu administratif au bord de la mort. Maher a 49 ans, il est père de 6 enfants. Il vient du village palestinien de Silat El Daher, dans la Cisjordanie occupée. Il a été arrêté fin juillet 2020. Il s'agissait de sa 5e arrestation. Il a été arrêté par l'armée d'occupation israélienne pour la première fois en 1989, alors qu'il était très jeune, il avait 18 ans, puis de nouveau en 2004. En 2009, Maher a été détenu administrativement pendant 16 mois, et de nouveau en 2018 pour une période de 11 mois.
Just a few months after his last release, he was rearrested, and an administrative detention warrant for 4 months was again issued against him.
Quelques mois seulement après sa dernière libération, il a été de nouveau arrêté, puis un mandat de détention administrative de 4 mois a de nouveau été délivré contre lui. Il est constamment mis en avant qu'il appartient au djihad islamique, mais comme c'est souvent le cas dans les procédures de détention administrative, et ça c'est vraiment important, cette allégation ne peut jamais être contestée. Il n'y a pas de mise en examen, pas de procès, pas de preuves, rien. Les gens sont mis en prison sans qu'on leur dise pour quelle raison ni pour combien de temps. Ça peut être 4 mois ou 6 mois, mais après 6 mois, il y a un autre mandat et cela peut durer éternellement, indéfiniment.
On the day of his arrest, 27th of July, Maher declared he was going on an open hunger strike until his release, because he knew that unless...
Le jour de son arrestation, le 27 juillet, Maher a déclaré qu'il allait faire une grève de la faim jusqu'à sa libération, parce qu'il savait qu'à moins qu'il ne proteste vraiment très fortement, sa détention administrative serait prolongée encore et encore. Lorsque son état de santé s'est détérioré, Maher a été transféré dans un hôpital israélien et à la suite d'un appel devant la Haute Cour de justice, son arrestation a été suspendue. C'est une nouvelle astuce inventée par les juges de la Haute Cour qu'ils suspendent mais ne lèvent pas, n'annulent pas l'arrestation. Malgré la suspension de l'ordre de détention, les autorités israéliennes ont refusé sa demande d'être transféré dans un hôpital dans les territoires occupés. C'est ce qu'il souhaite. Il souhaite être transféré dans un hôpital à Nablus ou même à Jérusalem-Est, qui est en fait sous autorité israélienne, mais c'est un hôpital palestinien. En ce qui concerne Maher, cette suspension n'est donc qu'une supercherie sémantique. Il est toujours aux mains des autorités de sécurité israéliennes, bien qu'il ne soit pas arrêté, comme je l'ai expliqué. Il semble que personne ne sache vraiment sur quelle base juridique il est gardé dans cet hôpital, comme s'il était encore arrêté, mais c'est ça qui se passe.
Maher's life is quickly coming to a tragic end because the Israeli authorities are either indifferent to his life or actively refuse.
La vie de Maher arrive rapidement à une fin tragique car les autorités israéliennes sont soit indifférentes à sa vie, soit refusent activement toute mesure qui lui permettrait d'arrêter sa grève de la faim. Et nous croyons que tout cela est lié à une implication directe du service de sécurité, le Shin Bet. Ils savent que la communauté palestinienne est faible en ce moment et qu'il n'y aura pas de grande agitation s'il meurt. Peut-être il y aura quelques protestations, mais rien de dangereux pour Israël. Ils savent qu'il n'est pas dangereux. Ils savent qu'il n'y a aucun danger venant d'une personne détenue dans de telles conditions et qu'il est sur le point de mourir.
So what's the reason of keeping him like that? The reason is either to expose the weak situation of the Palestinian society.
Alors pour quelle raison est-il gardé comme ça? C'est soit dans le but d'exposer la situation de faiblesse de la société palestinienne, soit de mettre en avant une victoire, ne pas le laisser gagner quoi qu'il arrive, et de mettre en avant cet outil dictatorial antidémocratique qu'est la détention administrative. Il semble donc que Maher va mourir, en criant haut et fort que pour lui, c'est la liberté ou la mort. Et tout ça pour des considérations qui ne riment à rien. Car le danger qu'il représenterait pour la société israélienne n'est même pas interrogé. Cela nous laisse avec le rôle de la communauté internationale. La communauté internationale doit poser des exigences en des termes forts et menacer Israël de sanctions si elle ne libère pas Maher immédiatement et si elle n'arrête pas sa politique atroce de détention administrative. Des centaines de Palestiniens et Palestiniennes sont détenus en tant que détenus administratifs. En ce moment, il y a plus de 350 détenus de ce type. Mettons fin à cela. Merci.
Thank you.